Premièrement, je voulais remercier notre Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce d'apporter encore le message aujourd'hui, car c'est une grâce, c'est venu ensemble pour déguster la parole de Dieu qui est esprit, qui est vie, la parole qui est un marteau qui brise le roc. C'est vraiment une grâce. Je veux prier juste rapidement pour inviter le Seigneur, le Saint-Esprit, il est déjà là pour qu'il nous conduise, pour qu'il me conduise, pour que celui qui parle à travers moi. Saint-Esprit, nous t'invitons, viens, prends contrôle, que tout se passe selon ta volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ, que c'est toi qui parles à travers moi, que c'est ta parole qui t'a relâché, que c'est la parole de Jésus-Christ qui se relâche, ta parole du Seigneur, que tu vas prendre ce que Jésus-Christ a dit pour nous communiquer. Saint-Esprit, communique ça à travers ma bouche, Seigneur, que ce soit les paroles de puissance. Nous prions tous ces temps dans le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Amen, amen. Ok. Donc, ce que le Seigneur m'a mis aujourd'hui à cœur, c'est de partager avec vous ce thème qui est sur la vision. Car en fait, notre victoire dépend de notre vision. Donc, dans la vision, c'est ça en fait qui nous conduit à la victoire. Donc, c'est un peu comme un chemin qui nous mène dans des objectifs bien précis. Donc, s'il n'y a pas ce chemin, s'il n'y a pas cette carte, cette map, s'il n'y a pas cette direction, comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à destination? Comment est-ce qu'on va pouvoir marcher, en fait, dans notre destinée, accomplir notre destinée? Parce que quand on parle même de vision, ça parle de destinée. Et c'est vraiment triste que nous évoluions dans une génération qui n'a plus ce sens de destinée, qui pense que c'est eux qui décident ce qu'ils veulent faire. Vous voyez bien, mais pour un peu illustrer le côté de la vision, c'est quand une personne qui veut partir, prendre de l'argent à la banque, faire un prêt à la banque pour faire un business. Mais quand il va arriver à la banque va lui demander, mais quel est ton plan d'action? Quel est ton business plan? Quelles sont les étapes que tu vas prendre pour arriver à ton objectif? Donc, même ici sur le plan terrestre, on veut voir un blueprint, on veut voir un roadmap. Comment faire pour arriver? Et c'est un peu similaire. Ici, on ne parle pas de notre objectif. Quand je parle de vision, quand on parle de vision dans la Bible, c'est pas nous. C'est quelqu'un qui donne cette vision. Cette vision, en fait, ça vient de Dieu, elle ne vient pas de nous. Donc, c'est lui qui a préparé, c'est l'Éphésiens dit qu'il a préparé les bonnes œuvres pour nous avant la création du monde. Donc, c'est déjà préparé. Donc, comment on y arriver? Comment on marcher dans cette vision? Ça doit venir de Dieu. Donc, c'est Dieu aussi qui connaît le chemin. Donc, c'est Dieu qui a la vision. Et c'est Dieu qui connaît le chemin pour arriver. Dans la vision dont on parle, notre vision pour notre destinée, c'est connecté avec Dieu. La question à savoir, c'est quelle est cette vision que Dieu a pour notre vie? Je disais tantôt que ça peut être dangereux qu'on ne connaît pas la vision que Dieu a pour nous. Ça veut dire qu'on marche dans un labyrinthe, on marche sans savoir où on va. Mais si on ne connaît pas la vision que Dieu a pour nous, la question que l'on se pose, c'est où allons-nous? Où est-ce qu'on va si on ne connaît pas ce que Dieu a pour nous, si on ne connaît pas la vision que Dieu a pour nous? Nous devons avoir cette vision. Donc, si nous sommes dans le Seigneur, si nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, Dieu a des plans pour nous. Dieu a une vision pour chacun d'entre nous. Marchons-nous dans cette vision? Est-ce que nous sommes en train de marcher dans le plan que Dieu a préparé pour nous? Il y a beaucoup ceux qui sont des chrétiens, ils ne lisent pas la Bible. La Bible, c'est pas le problème. C'est pas, ils sont tellement busy qu'ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Pas de communion. Mais où est-ce qu'ils vont donc? C'est la question qu'on doit se poser. Comment on peut être tellement occupé à marcher, à aller quelque part? On ne sait pas où on va. Et c'est ce qui est terrible. Donc on est busy. On a tellement de choses à faire. On a fait ABC, tellement on est occupé. On ne sait pas où on va. Ça sert à quoi mais d'avancer si on ne sait pas où on va? Si on ne sait pas où se trouve le bon chemin, donc sur quel chemin marchez-vous? Parce que si la Bible est fermée, si la communion avec le Saint-Esprit est fermée, en tant que chrétien, comment on va savoir la vision que Dieu a pour nous? Qu'on va savoir? Car ça demande d'avoir une relation avec le Seigneur. Et c'est lui qui va nous révéler cette vision. C'est pour ça que notre verset sur lequel on s'appuie, ça parle vraiment de cela. Que quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. Ça veut dire que le peuple avance et avance et avance et il n'y a pas de fin. Il continue à avancer sans s'arrêter et te demander et se demander où est-ce qu'on va. Psaume 119, verset 100, c'est dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole, c'est-à-dire que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous montre la direction, nous montre où aller. Donc, s'il n'y a pas cette parole, s'il n'y a pas cette lumière, ça veut dire que notre parcours, notre chemin est obscur. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va si nous marchons dans l'ombre, si nous marchons dans l'obscurité? Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Il y en a beaucoup. Mais où est-ce qu'ils vont? Sans lire. Parce que ce n'est pas question de sentiments. Ce n'est pas seulement question, oh, j'ai rêvé. Il faut la Bible. Proverbe 3, 5 à 6 dit ceci. Confie-toi en l'Éternel et de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc ici on dit qu'on ne doit pas se confier à notre propre sagesse. Qu'on ne doit pas se confier, on ne doit pas juste compter sur nous. Qu'on doit tout se donner, tout donner au Seigneur. Qu'on doit l'inviter dans tout ce qu'on fait. Donc il doit être présent. Qu'on ne fait pas ça, qu'on ne lit pas, qu'on a une communion avec le Saint-Esprit, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont en train de... Ils marchent, c'est pas qu'ils ne marchent pas. Mais ceux qui sont en train de marcher, ils sont en train de marcher sur leur propre vision. C'est pas la vision de Dieu. La vision que eux-mêmes ils ont établie, que eux-mêmes ils ont trouvé bon, ils se sont assis, ils ont trouvé que c'est bon, ils ont appelé ça leur vision. Parce que beaucoup d'entre nous, on a des projets, des choses qui semblent être cool, des choses qui semblent être à la mode, des choses qui semblent être vraiment géniales. Mais quand j'ai ce genre d'idées, j'en ai dit, pause. Est-ce que c'est même ce que Dieu veut? Parce que si ce n'est pas ce que Dieu veut, c'est une perte de temps. On voit ça plus tard. Si Dieu n'a pas construit, le construiseur, celui qui construit le builder, construit en vain. Donc si ça ne vient pas de Dieu, si ce n'est pas quelque chose que Dieu a établi, si ce n'est pas quelque chose que Dieu a préparé, si ce n'est pas dans son plan, les idées, les plans, tout cela, on fait ça en vain. Donc on a toutes ces idées, tous ces bons plans. C'est bien d'avoir cela, c'est bien d'y penser, c'est bien d'y réfléchir. Mais on doit prendre et dire, Seigneur, est-ce que c'est ton plan? Est-ce que c'est ce que tu envisages? Est-ce que c'est même dans l'éternité, quand tu planifies les plans que tu as pour moi, est-ce que ça fait partie de cela? Parce que souvent c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on a envie de faire. Souvent, le sang bout par rapport à ces visions. On est vraiment prêt. Mais on doit toujours mettre ça devant le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, c'est une perte de temps. De plus en plus que le temps avance, on se rend compte qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Donc on veut marcher sur le chemin, on veut être au milieu du chemin et marcher sur le plan de Dieu. Sa parole est une lampe à nos pieds. Donc beaucoup, ils font ce qu'ils veulent faire. Et ce qui est dangereux dans cela, c'est que, en faisant cela, ça ne les amène pas à la destination. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une destination, il y a un objectif. On est ici venu sur Terre pour accomplir des objectifs. Je causais avec des personnes, il y a cela une semaine. Il a demandé, mais ton objectif, est-ce que l'objectif de la vie est cet objectif? Qui détermine cela? Est-ce que ça vient de toi? Mais ça vient de Dieu, mais c'est déjà prédisposé. Beaucoup pensent que c'est eux qui déterminent leurs propres objectifs, c'est eux qui déterminent leurs propres visions. Pourtant, ça vient de Dieu. Et on peut rater notre destination. Parce que nous allons quelque part. Dieu a prévu des choses. On peut les rater. Et c'est triste. Pourquoi marcher sur un chemin qui ne va pas nous amener à la destination? Si Jésus est notre Seigneur, nous devons chercher sa direction, sa volonté, sa vision, et non pas la nôtre. Donc j'ai divisé ceci en trois catégories. Certaines personnes qui approchent ce concept de vision. Il y a trois chemins que les gens prennent généralement. Le premier, ce sont ceux qui ignore le plan de Dieu. Il n'y a pas que ça, c'est vraiment un message qui est important. C'est un message vraiment qui me concerne. Donc, ça nous appelle vraiment à crucifier la chair. Dans le premier cas, en fait, ce sont ceux qui ignorent Dieu, qui ne veulent même pas que Dieu soit dans le plan. Donc, qui se rebellent contre Dieu. Donc, quand c'est déjà le cas, on sait déjà qu'ils ne vont pas arriver à destination. Donc, qui marche dans leurs propres visions, qui marche dans leurs propres plans, on doit en parler parce que si on s'y trouve, on doit s'écarter et en sortir. Parce que notre destination, en fait, ça affecte la manière dont on vit notre vie. Notre destination, où on va, ça affecte comment on vit maintenant. Ceux qui ne pensent pas qu'il y a l'enfer, ceux qui ne pensent pas qu'il y a le paradis, ceux qui pensent que quand tu meurs, tu reviens, les manières de penser, les visions d'après la vie affectent les vies maintenant. Ils peuvent vivre une vie de débauche, une vie qui n'a pas de sens parce qu'ils se disent qu'il y a un rattrapage. Mais pourtant qu'on a une vision qui est claire sur la réalité, qu'il y a l'enfer et le paradis, et on sait où on va faire des actions qui nous préparent à arriver à cette destination. Et même quand certaines personnes ont cette vision du paradis, il est possible de faire des actions, il est possible de faire des pas qui vont détruire, qui vont nous pousser, qui vont nous écarter de ce futur. Donc beaucoup peuvent faire des actions qui détruisent le futur, qui font des actions, qui font des pas qui vont contre leur futur. Donc on sait où on va, on a un objectif à atteindre. Mais on se trouve dans des situations, on se trouve dans des cas, dans des actions qui sont en train d'impacter ce futur négativement. Et souvent, ça ajoute du retard. Des actions qui peuvent amener des retards de 2 ans, de 5 ans, souvent même de 20 ans. Parce qu'il y a aussi une préparation pour cela. Il y a une préparation. Et qu'on n'a même pas cette vision, qu'on marche juste dans le vide, surtout qu'on était encore hors de Christ, qu'on n'était pas encore chrétien. Il y avait ces actions qu'on faisait, ces pas qu'on faisait, qui retardaient notre destinée. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette vision. Et beaucoup ne savent pas cela. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont en train de tourner en rond, qu'ils sont en train de perdre le temps, qu'ils sont en train d'ajouter des années et des années pour atteindre leur destinée par le manque de vision. Ils ne savent pas où aller. Donc, quand on est consacré, quand on est appelé, quand on est choisi, quand on est élu, on a une vision, on a une destinée. Et c'est important de savoir cela et d'avoir des stratégies pour y arriver. On ne doit pas regarder ça avec nos propres yeux. On a regardé cela avec les yeux du Seigneur. Donc, on va prendre un exemple. Avant même qu'on arrive pour cela, il y a aussi certains qui négligent le destin. C'est-à-dire qu'ils ont une vision, mais ils négligent la vision. Négligent la vision que Dieu les a donnée. Et ils vendent les visions à un prix qui est très bas, très moins cher. Parce que si on ne connaît pas la valeur de quelque chose, ou si on a quelque chose, quand on possède quelque chose, on ne connaît pas cette valeur, on va s'en débarrasser facilement. On va s'en débarrasser facilement. Je vous rappelle du frère de Jacob. Et ça, il a carrément vendu son droit d'aînesse. Il n'a pas capturé ce que Dieu est en train de faire. Il n'a pas capturé son appel étant aîné. Il n'a pas vu les plans de Dieu. Il a raté la vision. Il ne savait pas où y aller. Il pensait qu'il était juste quelque chose de terrestre, de matériel. Quelque chose d'héritier familial, c'est pas ça. Il y avait un héritage spirituel. Il y avait un bagage qui a commencé avec Abraham. Un héritage, une promesse qui devait être libérée. Il n'avait pas la vision. Il n'a pas pu capturer ce que j'étais en train de faire. Il n'a pas pu capturer le plan de Dieu. Il a raté. Il a négligé. Il a donné à son frère. Est-ce que nous capturons ce que Dieu est en train de faire dans notre vie? Est-ce que nous capturons l'importance de qui nous sommes en Christ, l'importance de ce que Dieu est en train de faire avec nous. Est-ce que nous captivons où il est en train de nous amener? Parce qu'il est hors du temps, il voit la fin. Nous devons voir cette vision. Quand il dit qu'il laisse 99 pour partir chercher un, mais ça pèse, ça révèle beaucoup de choses. Ça montre l'importance juste un de ses enfants, qui est moi et vous. Donc dans cela, en nous, Christ en nous, il y a cet appel, il y a cette élection, il y a ce choix, il y a ce travail, good works, cette vision qui était préparée. Donc beaucoup souvent nous ratons cela. Ne négligeons pas la vision que Dieu a à nous. Ne négligeons pas ce que Dieu est en des choses puissantes, tellement puissantes que Dieu est en train de faire à nous maintenant. Maintenant, pas que maintenant. Soit on ne voit pas. Souvent on ne voit pas, mais c'est puissant. Paul dit à Timothée, take hold, te prends de saisir la vie éternelle à laquelle Dieu nous a appelés. Et ça commence maintenant. Donc ouvrir nos yeux pour savoir ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Donc on ne doit pas céder, souvent ça peut être difficile. Mais on doit passer de beaucoup en vendu de destinée pour des petites choses, des choses qui n'ont pas de sens. Destinée puissante. Je laisse tomber. Souvent, l'ennemi veut utiliser la ruse, le camouflage. Mais restons fermes. Restons fermes. On va aller dans l'Ancien Testament. On va parler d'une personne qui n'avait pas la vision de Dieu, qui n'avait pas la vision de Dieu et qui a carrément conduit sa famille dans des situations difficiles parce qu'il ne connaissait pas la vision de Dieu. Là, c'est dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth. Mais avant qu'on entre dans le livre de Ruth, c'est important de savoir la situation qui se passait avec vous, dans quelles conditions les personnes dans ce chapitre étaient. Et quand on parle de Ruth, on doit rentrer avec Moïse. Vous voyez, Dieu a appelé Moïse pour envoyer, pour conduire son peuple à la terre promise. Donc Dieu avait une vision pour Israël. Dieu avait une vision pour les enfants d'Israël. Donc Josué, Moïse est mort, Josué a conduit les enfants d'Israël à la conquête de la terre promise. Ils ont pris cette terre. Très bien. Tout le monde était content. Mais il y avait un problème. Donc, quand ils étaient dans cette terre, ils n'ont pas pu vivre toute la promesse que Dieu avait pour eux dans cette terre. Ils ont commis des échecs. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans cette terre promise, ils avaient perdu leur moralité. Donc, ils avaient péché contre Dieu. Ils avaient rompu l'alliance de Dieu. La raison pour laquelle ils avaient péché contre Dieu, c'était parce que quand Israël avait conquis Canaan, il n'avait pas conquis tout Canaan. Mais il y avait certaines tribus dans des régions reculées qui étaient toujours à Canaan. Donc, la parole, c'était la direction, c'était pour Israël, pour chaque tribu, de repousser ces petits groupes. De la conquête était en fait incomplète. Et ce qui s'est passé, c'est que les Canéens qui étaient restés dans ces pays ont tourmenté l'avenir des Israéliens. Les Israéliens, ce qui s'est passé, ils ont commencé à adopter certaines pratiques des païens. ils ont commencé à être corrompus. Donc, au lieu de repousser ces gens, au lieu de repousser ces petites tribus, ces petits groupes, ils ont été corrompus, ils ont commencé à faire leur pratique. Ils ont embrassé la religion canéite. Et à cause de cela, Dieu les a frappés. Et comment Dieu les a frappés? Quand ils faisaient les combats contre cette tribu les tapait. Donc ça, c'était en fait le jugement de Dieu contre les Israéliens. Ils n'étaient pas en mesure de chasser les territoires. Et donc, Dieu a donc élevé des juges. Donc, quand les Israéliens, quand ils se repentaient, quand ils étaient bien tapés par cette tribu, ils se repentaient au Seigneur, le Seigneur a élevé des juges pendant environ 400 ans. Et c'était en fait des chefs militaires que Dieu avait élevés pour avoir des tâches bien précises pour délivrer son peuple. Mais ici, il y avait un problème. Il y avait un cycle. Quand les juges délivraient Israël, certaines parties d'Israël, ils retombaient encore dans leurs propres péchés. Les gens faisaient encore ce qui était dans leurs propres yeux bien, ce qui était dans leur... C'était un peu comme un cycle. Ils ont péché contre Dieu, Dieu les libère des nations, des ennemis, en envoyant des juges, ils retombaient encore dans le péché. Et quand on parle de péché, c'était l'idolâtrie, les complots, les violences et des actions qui... l'immoralité sexuelle. Donc, c'est un peu ça le background. Et donc, ce qui se passe avec Ruth, c'est qu'ils étaient en fait dans cette époque où Israël était se rebeller contre Dieu, où Israël adoptait la moralité, les traditions des Canéens. Et donc, dans ce temps-là, on va lire, disons, juge. On va lire Ruth 1 à 5. On va commencer verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Donc peut-être que c'était encore une punition du Seigneur, mais en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'ils étaient confrontés, ils faisaient face à un problème. Il y avait la famine. Ils avaient du mal à obtenir ou à manger. Ils ont décidé de quitter cela pour aller dans le pays de Moab. Mais bien aimé, ici qu'ils étaient à Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Donc c'est que c'est là où il y a le pain en abondance. Donc, c'est là même où, quand il y a la famine, c'est là où tu dois être. Mais, par manque de vision, par manque de direction, et c'était à Canaan, regardez la vision de Dieu, c'était que eux, ils partent à Canaan pour rester sans. C'est là que Dieu les a appelés. Ah, il n'a pas compris. Ces gens-là, ils n'avaient pas compris. Il savait que dans sa descendance, il y avait quelqu'un qui devait naître. Cette personne ne devait pas naître à Moab. Ils sont partis à Moab. Ce n'était pas ça la vision de Dieu. Jésus-Christ ne devait pas venir à Moab. Il devait venir à Canaan. Bethléem. Donc, lui, il quitte dans la maison du pain, de l'abondance. Il va chez les Moab. Et c'est aussi important de savoir que Moab, en fait, ça c'était un pays, une tribu, qui était ennemi à Israël. Ils étaient ennemis à Israël. Moab voulait envahir Israël à l'époque du roi de Ehud. Et vous vous rappelez, quand Balak qui fait partie de Moab, était roi, il était roi de Moab, il voulait détruire Israël dans Nombre 22. Et Dieu a donné une malédiction sur les Moab jusqu'à la 10e génération parce qu'ils n'avaient pas accueilli Israël qui sortait d'Égypte. Il y avait une malédiction qui était pour eux. Donc, Moab était ennemi à Israël. Ils ont combattu Israël pendant le temps des juges. Ils voulaient envoyer Israël, numéro un. Numéro deux, ils étaient maudits par le Seigneur pendant 10 ans. Parce qu'ils n'avaient pas acquis Israël qui sortait du désert. Et ils décident de quitter la maison du pain pour partir dans ce pays-là. Donc, ils prennent une direction qui est opposée. C'est comme si par contre la vision de Dieu pour tenir la terre promise. Il n'a pas pu capturer cela. Mais je veux souligner quelque chose d'important ici. Ici, on dit qu'il est parti pour un séjour. Vous savez, quand on parle de séjour, ça veut dire que ce n'est pas pour longtemps. C'est juste un petit temps. Ce n'est pas pour rester, ce n'est pas pour vivre, ce n'est pas pour s'installer. C'est pendant un petit moment. Si vous lisez ça en anglais, on va dire temporairement. Donc, ce n'est pas définitif. Il y a peut-être qu'un problème, il est parti. Ça, c'est important. Il est parti séjourner, ok. Bon, peut-être qu'il avait la vision, il est parti juste pour séjourner. Lisons le verset 2. Le nom de cet homme était Elimelec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malcolm et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Ah, wow! Juda! Ça, c'est la tribu même où il y a la promesse de sortie. La royauté, c'est Juda. Donc, ils arrivaient au pays de Moab et ils y firent leur demeure. Ici, on souligne demeure. Vous savez qu'ils ont maintenant décidé de rester. Donc, en anglais, ça veut dire qu'ils se sont installés, qu'ils sont restés. Donc, au lieu de partir temporairement pour un petit temps, au verset 2, l'auteur, c'est lui qu'en fait, ils sont restés. Donc, ils se sont détachés de l'appel que Dieu avait pour eux. Ils se sont détachés de cet appel. Et si vous lisez bien, et sans vraiment en profondeur, et les mecs, quand on traduit ça, ça veut dire Dieu est le roi. Mais il vient de la tribu de Juda, Dieu est le roi. Donc, cela appelle une destinée, Naomi, qui veut dire Dieu est mon délice. Ou mon plaisir, les noms puissants, les noms de destinée. Et regardez les noms qu'ils donnent les enfants. Malom. Malom veut dire malade. Donc, ils ont le nom de destinée. Ils viennent d'une tribu de destinée où le roi doit sortir, où Jésus doit sortir. De Bethléem, où Jésus doit être né. Il donne à les enfants le nom de malade. Ça, c'est Malham. L'autre, Chilion, ça veut dire destruction. Regardez le nom. Destruction. Anik, c'était un Éphrate. Un Éphrate. Éphrate veut dire quelqu'un qui produit. Ça veut dire qu'il y a, ça veut dire l'abondance. La production, l'abondance. Regardez le nom qu'il donne à un enfant. Il n'a pas vu la destinée. Il n'a pas capté. Il n'avait pas cette relation avec le Seigneur. Il n'avait pas cette connexion. Il n'était pas ancré dans l'écriture. Il ne lisait pas la loi. Parce que quand on regarde la situation sociale à cette époque, il s'est rebellé contre Dieu. Il a adopté les cultures des Cananéens. Et beaucoup d'entre nous, des chrétiens d'aujourd'hui, sont dans des cas similaires. Pas de lecture de la parole, pas de lecture de la Bible, pas de communion avec le Saint-Esprit. Ils étudient les bouches pour maudire les enfants. Mais il oublie qu'il est appelé, il oublie qu'il est choisi, il oublie qu'il est élu, il oublie que Dieu a des plans pour lui. Il oublie que c'est un prêtre. Il oublie qu'il est élevé. Et c'est ce que lui, il avait fait. Et le mec, il se lève. Il avait oublié son identité. Il a négligé son identité, négligé son appel, négligé sa vision. Et beaucoup de chrétiens peuvent le faire. Bien-aimé, étant enfant de Dieu, vous êtes tellement important. Dans un des partis temporairement, ils sont restés. En tant que leader, il a conduit sa famille dans des situations. Il n'a pas vu la direction de Dieu. Il n'a pas capté la direction de Dieu. Il a marché contre la vision que j'avais pour eux. On continue. Si vous regardez un peu l'exemple, ce qui s'est passé le passé, Isaac, quelle est la famine? Dieu lui a dit de rester. Il avait une relation avec le Seigneur. Il a pu écouter la voix de Dieu. Il avait cette communion avec le Seigneur pour comprendre, pour voir la direction. Jacob, il est parti, il est revenu. Jésus, il est parti, il est revenu. Est-ce que nous sommes, c'est une question, est-ce que nous sommes dans le plan que Dieu a prévu pour nous maintenant? Est-ce que nous sommes dans la vision? Est-ce que nous avons pu capter la vision que Dieu a pour nos vies? Est-ce que nous sommes en train de marcher dans la vision que Dieu a pour nous ou nous sommes dans la direction opposée? Où est-ce que nous sommes? C'est une question qu'on se pose. Et le mec était, Elimelech était dans une direction opposée, contraire à la promesse de Dieu, contraire à la vision de Dieu, contraire à l'appel de Dieu pour lui et sa famille. Est-ce que nous sommes à la vision du Seigneur? Lisons le verset 3-5. Et le mec, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Il prit les femmes moabites. Dans l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Malcolm et Kilion mourut aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses fils et de son mari. Situation terrible. Le père, va la direction contraire du Seigneur, installe sa famille, reste, il est frappé. Ses enfants prennent des femmes moabites. On dit pendant 10 ans. Donc pendant ces 10 ans, il y avait cette opportunité de rentrer. Il y avait cette opportunité de rentrer car le roi ne doit pas être un moab. Le roi ne doit pas naître dans la tribu de Moab, c'est à Juda. On les a frappés. Maintenant, Naomi, si vous lisez plus tard, elle va changer son nom. Donc, c'est la question qu'on doit se poser. Marchons-nous dans la direction du Seigneur? Ou marchons-nous contre la vision du Seigneur? Alors, c'est le premier cas. Deuxième cas. Donc, il y a ceux. Ils ont une relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils connaissent Dieu. En fait, c'est ces gens. Mais le premier cas, c'est ceux qui ignorent Dieu. Ce que on a terminé avec cela. C'est ceux qui ignorent Dieu. Et ils ne peuvent pas arriver à destination. Ça, c'est clair. Deuxième cas maintenant. On a 3 cas. Le deuxième cas, ce sont ceux qui connaissent Dieu, qui ont une relation avec Dieu, qui écoutent la parole, qui écoute même la voix de Dieu, mais qui sont des rebelles. Des rebelles. C'est qu'ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur dit de faire. Ils cherchent Dieu, ils demandent, ils cherchent. Mais quand Dieu parle, lui dit non, qu'il ne veut pas faire ça. Et souvent, ça les distrait de leur vision. C'est que ça les distrait de leur vision. Ou bien pour avoir certaines autres choses qui n'ont pas d'importance, qui les distrait de leur vision. Souvent, ce sont des défauts, des erreurs, des inconforts. Et souvent, Dieu vous appelle dans cela à atteindre votre destinée. Dans cela, il vous équipe dans ce chemin. Il vous prépare. Mais souvent, on se focalise sur les petites choses qui peuvent nous distraire. Souvent, on prend le temps pour s'arrêter, pour fixer, chercher, arranger, pour que tout soit parfait, ou même pour que tout soit similaire à ce que les gens du monde sont en train de faire. Donc, souvent, Dieu nous met sur un chemin, il nous met sur une direction, une position. Et dans ce chemin, on regarde ce que le monde est en train de faire et on veut le copier. Donc, on veut prendre les choses du monde pour venir mettre la vision de Dieu et avancer. Mais c'est difficile. Soit, mais c'est ça qui perd le temps. C'est ça qui, en fait, perd même beaucoup le temps. On veut accommoder les choses du diable, les choses du monde. On pense que Dieu, peut-être qu'il ne connaît pas beaucoup. Peut-être qu'il est même pas informé de ce que le monde est en train de faire. Peut-être qu'il ne voit même pas les choses qu'ils sont en train de faire, qui sont tellement géniales. Mais peut-être qu'il n'est même pas trop cultivé, bien dans la mode, bien dans l'innovation. Peut-être qu'il n'est pas dans l'innovation. Alors, du coup, on veut prendre une pause, on peut s'arrêter. Et du coup, on veut un peu essayer de faire. On peut essayer de prendre ces choses. Et souvent, ces choses sont inutiles. Il y a des bonnes choses, mais souvent, ce sont des choses qui sont inutiles. Ce sont des choses qui retardent la vision. Ce sont des choses qui changent, qui dévient la vision. Et souvent, ce sont des choses, en fait, qui nous retirent de la vision. Donc, on doit avoir nos yeux fixés sur le chemin. On doit éviter les distractions. Beaucoup peuvent être distraits. David était distrait. Vous rappelez des choses, David et Bathsheba. La guerre se passait. Il devait être en train de faire la guerre. Il est carrément resté à la maison. Il a convoité la femme d'autrui. Il l'a fait. C'est-à-dire, donc, il s'est écarté de la vision que Dieu avait pour lui. Il a fait le complot. Il a pris la femme d'autrui. Il a fait le complot pour tuer le mari de cette femme. Donc, il était déjà... Et souvent, vous faites un pas. Ce pas-là vous amène à 50 pas qui est hors de la vision, des distractions. Tellement distrait des choses du monde. Pourtant, Dieu n'approuve pas cela. Les séductions du monde. Regardez Samson et Dalila. Ah. Carrément séduit. Et c'est ça qui a mené à sa perte. C'est ça qui a fait ce qu'il tombe. Il était appelé, confirmé. Il était distrait. Donc peut-être vous êtes des hommes de vision. Mais il y aura des situations que l'ennemi va essayer de mettre, il va essayer de vous séduire, il va essayer de faire des distractions viennent pour vous écarter de votre vision. Il y aura même des inconforts. Mais dans cela, Dieu veut vous fortifier pour que vous continuez à marcher sur le chemin. Il y a certaines actions, comme il dit précédemment, que quand nous marchons dans la vision de Dieu, il y a certaines actions, l'ennemi va chercher à venir mettre des choses devant nous, des choses autour de nous. Ce sont des pièces qui sont dangereuses. Surtout quand nous sommes en train de monter dans la vision que Dieu a pour nous. Nous sommes en train de courir. Nous sommes à un élan. Vous voyez, quand vous courez, vous faites un élan. Vous courez rapidement. Si vous changez le chemin, si on vous pousse un peu, si vous déviez un peu, vous allez prendre un angle opposé et ça sera aussi rapide. Donc, quand vous avez cette vision, l'ennemi essaie de mettre des pièges. Et ce sont des pièges qui vont vous retarder pendant des années. Pas juste des années qui vont faire des blocages de David. À cause de ce qu'il a fait. Son trône, c'est son fils. Il est venu prendre son trône. Il a humilié, il est parti en retraite. Avant qu'on revienne prendre le trône. Ça crée une catastrophe dans sa famille. Catastrophe à cause de cette erreur. À cause de cette erreur. Une erreur qu'il a commis. Ça peut faire des dégâts. Des dégâts. C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours les yeux focalisés sur la vision. Toujours les yeux focalisés où on va. C'est quoi l'objectif? Être conduit par le Saint-Esprit. Parce que quand on écarte nos yeux de la vision, qu'on oublie la vision et que nos yeux sont focalisés sur les choses du monde, c'est là que l'ennemi va chercher à frapper. C'est là qu'on va être distrait. Mais si on sait que cette action, ça c'est 2 ans de retard, ça c'est 5 ans de retard, ça c'est 10 ans de retard, ça c'est 20 ans de retard, on va essayer de s'échapper rapidement. Parce que c'est une perte de temps. C'est une, qu'on a la vision, qu'on est vision focus. Yeux de laser sur la vision. On va essayer de s'échapper de cela rapidement. Rapidement. Donc, évitons ces actions, ces pièges que l'ennemi va essayer de mettre devant nous pour nous retarder. Il va essayer de mettre cela pour paralyser notre destinée. Paralyser notre destinée. Quel est le cas de Balaam? Dieu carrément a causé avec lui. Dieu a causé avec lui. Ne va pas. Là, il est parti. Il était séduit, il avait les choses dans son cœur. Il se rebelle contre le Seigneur. Il se rebelle contre le Seigneur et c'est dangereux. Pourtant, il avait cette connaissance de Dieu. Regardez les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils arrivent dans le désert, ils sont prêts de la terre promise. Quelques jours de la terre promise. Dieu a une vision pour eux. Dieu veut leur donner la terre promise. C'est ça la vision. Et Dieu en envoie des esprits pour partir. Juste 2 captent la vision de Dieu dans cela. 2 juste étaient capables de capter ce que Dieu avait dit et savoir qu'en fait ça va se réaliser. Les témoignages, ils ont fait des paroles, ils ont dit des paroles qui s'alignaient avec la vision de Dieu. Les autres ont dit que non, ces géants sont très forts. Que pourquoi Dieu les aime amener là-bas? Le peuple s'est rébellé, le peuple voulait rentrer. Mais Dieu a dit, vous ne comprenez même pas. Donc vous ne voulez même pas, vous vous opposez à la vision de Dieu. Et Dieu les a dit que de ces générations, il y a 2 personnes qui sont entrées à la terre promise. 2. Caleb et Josué. 2 personnes. Est-ce que de nos propres bouches, nous contredisons la vision que Dieu a pour nous? Est-ce que nous nous rébellions contre la vision que Dieu a pour nous? Parce que Dieu ne force pas. Est-ce que Dieu vous a donné un plan? Dieu nous a donné une direction? Il vous a montré que voici le plan? Et vous dites que ça, ce n'est pas pour moi. Rappelez Jonas? Lui, il ne voulait pas partir. Ce n'était pas son affaire. Il s'est rébellé. Dieu lui a donné des instructions. Voici la vision. Va, prêche la parole à Ninive. Il a dit non. Donc, face aux directions que Dieu nous donne, qui nous conduit au plan qu'il a pour nous, parce que c'est pour notre bien, c'est pour qui il est en train de nous aider pour qu'on accomplisse notre course. Le Saint-Esprit nous aide pour qu'on accomplisse notre course. Est-ce que nous sommes sur le chemin que le Seigneur a pour nous? Ou est-ce que nous résistons? Quand nous résistons, voici ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël qui est au désert? Quand Dieu a pris sa décision que juste deux d'entre eux vont entrer à Canaan, le feu n'est pas parti. Le feu était toujours là. Dans la nuit, le feu toujours les conduisait. Dans le jour, les nuages toujours étaient au-dessus d'eux. Donc, c'est pas comme si il y a eu, ils sont, oh, Dieu a ouvert une peste pour les... Non, non, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la puissance de Dieu était toujours là. Mais parce qu'ils étaient en train de marcher dans la rébellion, parce qu'ils se sont opposés au plan de Dieu, Dieu les conduisait, mais ne les conduisait pas dans la destinée, que Dieu a prévue pour eux. Parce qu'ils ont refusé cela. Dieu ne pouvait pas les conduire dans une vision que lui, il a, mais que les enfants d'Israël refusent. Dieu ne force pas les gens. Même pour le paradis, Dieu ne force pas les gens. Donc, Dieu était en train de les conduire. Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit était toujours présente. Mais les cœurs étaient durs, les cœurs étaient rebelles. Et Dieu ne les a pas conduits dans sa vision. Ils ont tourné. 40 ans, si je ne me trompe pas. C'est Dieu qui les conduisait. Jusqu'à ce que ceux qui étaient OK, ceux qui étaient d'accord, ceux qui avaient accepté la vision, je les établis. J'ai établi Josué pour qu'on lui reste la terre promise. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Même étant chrétien, même ayant une relation avec le Seigneur, ayant une communion avec le Seigneur, lisant la Bible, si nous nous opposons aux directives du Seigneur, si nous nous rébellons aux directions du Seigneur, si nos cœurs sont en tuyaux, votre destinée, même pas votre destinée, la destinée que Dieu a prévue pour vous, ça sera disponible, il vous conduira là-bas quand votre cœur sera ouvert à cela. Parce qu'il ne va pas vous forcer. Donc, si vous êtes en train de te rébeller, vous êtes en rébellion, peut-être, bien fort probable, que tu es en train de tourner en rond. Même si vous occupez les Saint-Esprit et les enfants, donc peut-être vous occupez la voix de Dieu, vous avez les paroles de révélation, les paroles de connaissance, tout cela, vous avez trouvé le travail, vous avez acheté une nouvelle voiture. Les enfants d'Israël mangeaient dans le désert. Ils mangeaient, Dieu les donnait la provision, ils mangeaient. Mais ils ne partaient pas dans leur destinée. Donc peut-être nous sommes en train de manger, peut-être nous avons la provision, peut-être nous avons un endroit pour se coucher, peut-être nous avons ces bénédictions, mais nous pouvons être éloignés de notre, la vision que Dieu a pour nous, éloignés de notre destinée, parce que nous avons refusé la vision, les directives que Dieu a pour nous. Et ça, ça peut être dangereux. Un chrétien rempli, Saint-Esprit sur lui, mais qui est en train de tourner en rond, qui est en train de s'éloigner de la vision que Dieu a pour lui. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter sur la partie 2. La partie 3, on va parler de ça prochainement. Mais ici, je voudrais qu'on se demande qu'on demande au Seigneur avec cœur ouvert, qu'on enlève tout ce qui endurcissait le cœur, on enlève les scénarios que je refuse ton plan. On soit sincère avec le Seigneur. Sincèrement, on lui demande, quel est le plan, Seigneur, que tu as pour moi? Dis-le-moi, même si je m'étais opposé auparavant, même si je ne voulais pas ça, même si j'ai détesté cela, mon cœur est ouvert. Quel est ton plan? Parce que Dieu ne va pas nous forcer. Soit c'est sa vision, soit c'est notre vision. Donc, soyons sincères. Et ayons cette communion, cette demande au Seigneur. Et là, on va faire notre choix. Est-ce que nous continuons de la rébellion ou est-ce que nous demandons pardon? Et nous laissons totalement conduire par le Saint-Esprit. Et là, je vais me procéder à voir. On prend l'exemple d'une personne qui l'a fait, malgré qu'il ne voulait pas partir, malgré que c'était difficile. Il a dit, Seigneur, pas ta volonté, pas, il a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Notre cœur doit toujours être disponible à répondre et à suivre les directives et la volonté de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dans le proverbe, garde ton cœur plus que toute chose. Là, on va s'arrêter là. Je vous donne ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Amen. Gloire à Dieu.